Art et travail d'André Delferrière présente Fumée, film radiophonique de Charles Méry, d'après le roman d'Ivan Turgenev. Avec la distribution suivante, André Burgère, Georges Litvinov, Harry Krimer, Potouguine, Paul Amiot, Prince Vassilievitch Ozinine, Julien Lacroix, le général Ratmirov, Robert Maxime Aubry, Mikhailov Litvinov, Dominique Bucard, Nikita, Philippe Lodenbach, Petrov Ivanovitch, Géo Valry, Goubarev, Pierre Ferval, premier marchand, Robert Virani, deuxième marchand, Henri Prestal, employé de la gare. Avec Anita Soler, Irène Pavlova Ozinine, Denise Montréal, Tatiana Chestov, Marguerite Guéraud, Capitoline Chestov, Yvonne Villeroy, Princesse Ozinine, Madeleine Lotte, la femme de chambre, Régine Servat, la récitante. Chef opérateur du son, Raymond Besse. Collaboration technique, Jean-Louis Guérin. Assistante, Annie Cœur de Vais. Mise en scène radiophonique de Ange Gilles. C'est une production Anita Soler Delferrière.
Chez les Ozinine à Moscou en 1850.
Mais quand c'est-il que vous me paierez? Si vous continuez de ce train, je vous préviens, je vais me plaindre au district.
Pas si fort, s'il vous plaît. Demain, je passerai vous voir demain.
Vous voir? Mais je m'en fous de vous voir, moi. C'est votre argent que je veux voir. Vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça, espèce de...
Ah ça, dis donc. À qui crois-tu parler? À un de tes pareils? Je suis le prince Paul Vassilievitch Ozinine. Et toi, tu n'es qu'un vil moudjik. Je t'apprendrai le respect,
moi. Oh, des princes comme vous, on sait ce que ça vaut.
Hein. Oh, sortez! Sortez, canaille, tous les deux, sortez!
Mais enfin, que se passe-t-il?
Il se passe, Natacha Ozinine, que nous voulons être payés. Depuis un mois que vous venez au magasin, la note s'allonge. Et comme on en a assez de vous nourrir et de vous chauffer sans toucher le moindre copec, on vient vous réclamer notre dû. Alors, en fait d'argent, votre mari nous fout à la porte. S'il n'avait pas les cheveux blancs, bon Dieu, je l'aurais déjà encadré, moi.
Boris a raison, Natacha Ozinine. 56 roubles que vous me devez à moi. Ça va faire 3 semaines.
Eh bien, vous n'avez pas fini de crier, tous? Oh, c'est commode de travailler son piano avec un tel vacarme. Bonjour, Alexis Ivanovitch. Bonjour, Boris Tatchkin.
Bonjour.
Bonjour, Mme Eliane. Bonjour.
Alors, vous n'êtes pas content?
Ah non, alors, non!
Vous voulez qu'on vous paye ce qu'on vous doit?
Mesdames, c'est bien naturel. Oui,
c'est tout à fait naturel. Vous avez absolument raison.
Mais je...
Non. Laissez-moi parler, père. Toi aussi, maman. Soyez tranquille, messieurs. C'est moi qui viendrai vous payer. Demain. Ou après-demain soir, ou plus tard. Je vous le promets, là. Vous avez confiance en moi, Boris Tatchkin.
Ah oui, mademoiselle, oui.
Et vous aussi, Alexis Ivanovitch.
Bon, on verra bien.
Eh bien, voilà, c'est dit. Et maintenant, je vous prie de vous en aller gentiment, sans faire de bruit. Les gens commencent à s'attrouper dans la rue. Ce n'est pas très agréable.
Pas agréable pour nous non plus.
Ah, bon, alors ça va. Après-demain.
Oui, mais après-demain, sans faute, hein.
Sans faute.
Mais d'accord. Bonsoir.
Par exemple, Irinka, je voudrais bien savoir...
Comment je vais faire pour les payer? Eh bien, comme j'ai fait les autres fois, j'emprunterai de l'argent à une de mes camarades de l'Institut.
Encore? Mais à qui emprunteras-tu?
Ah, écoute, maman, ça me regarde.
Bon.
Ah, Irène, il y a des moments, vois-tu, où ta mère et moi, nous préférerions mourir. Moi, le prince Vassilievitch Ozinine, moi, en être réduit là.
C'est-il vrai qu'il est prince?
Ah, pour sûr.
Un prince qui habite une maisonnette de 4 sous, dans ce quartier minable, place des chiens, c'est pour croyant.
Eh ben oui, ces Ozinine, c'était pourtant des vrais princes de Moscou. Ils possédaient autrefois des grands domaines, des châteaux, et leur aïeul siégeait au conseil des boyards.
Pour croyant.
Et puis, voilà qu'un jour, ils sont tombés en disgrâce. On a accusé le grand-père de sorcellerie, de conspiration, on les a condamnés, ruinés. Notre petit père, le tsar, leur a enlevé leur terre, leur dignité. On les a exilés je ne sais où. Et ça se passait il y a, bien avant Catherine II, sous le règne de Pierre Ier. Et puis, des années étant passées, et le vieux Ozinine étant mort, le tsar Nicolas a permis aux descendants de revenir à Moscou. On leur a rendu quelques-uns de leurs biens, et tu vois où ils en sont maintenant, et comment ils vivent. Tu vois ce qui reste de cette famille.
Oui, il y a le père Ozinine, oh, une vieille ficelle, un feignant. La mère...
Natacha Ozinine, la pauvre. C'est elle qui fait tout dans la maison, et c'est pourtant tenu, et propre. Tu as vu ce salon? Et ses beaux meubles, du temps jadis, ses glaces, ses tableaux. Et ils ont un piano. Tu as vu ces tapis?
Troués, les tapis.
Ah oui, ça, ils sont pas neufs. C'est la grande misère. 4 enfants avec ça. 3 placés dans les institutions de l'État. Et la fille, Irenka, Irène, comme elle veut qu'on l'appelle, beau brin de fille.
Elle n'a que 17 ans. Mais je suis tranquille. Elle fera son
choix. Ah oui, ça, comme tu dis.
Oui, elle est forte, notre Irenka.
Oh, elle est belle et courageuse. Et comme elle joue bien du piano.
Tu verras, Natacha, tu verras. C'est Irenka qui nous fera sortir de l'ornière.
Oh, que tu es sale, mon pauvre ami. Hein? Tu vides ta pipe sur le tapis.
Excuse-moi, je le nettoierai.
Oui, et les trous dans le tapis, hein?
Oui, je sais. Que veux-tu?
Oh, Seigneur Dieu, ce ne serait pas si mal si nous pouvions, comme tu dis, sortir de l'ornière.
Dis-moi, Doutchenka, tu ne penses pas qu'Irène se procure cet argent d'une façon malhonnête?
Ah non, pas de la façon dont tu le crains. Bien trop prudente pour cela, la petite. Non, c'est pas aux hommes qu'elle emprunte de l'argent. C'est à ses camarades de l'Institut, aux filles de petits bourgeois ou de riches paysans qu'elle s'adresse. Non, elle les éblouit toutes par son titre et sa beauté. Et toutes sont trop heureuses et fières de l'obliger. Tu comprends?
Oui. Mais c'est bien humiliant tout de même.
Chut, la voilà.
Ah, tu ne sors pas aujourd'hui, Irenka?
Il n'y a pas de cours cet après-midi, et il neige.
Qu'est-ce que tu penses, Irène, de ce tableau, là, là, au-dessus de la commode?
Rien, c'est de la vieille peinture.
Monsieur Litvinov dit qu'il est très beau, et que ça vaut de l'argent.
Possible.
Alors on pourrait peut-être le vendre?
Ah non. Tout disparaît dans la maison, peu à peu. Meubles, argenterie, tableaux, je veux pas qu'on le vende, celui-là. Je ne sais pas d'où il vient ni ce qu'il vaut, mais j'y tiens.
Enfin, il faut pourtant trouver de l'argent, puisque tu ne travailles pas. Et ce n'est pas avec la petite pension que tu touches.
Et à quoi veux-tu que je travaille? Je suis le dernier des princes aux inines. Et nos cousins, tu vois ce qu'ils font? Fédor est surveillant des débits d'eau de vie. Boris est régisseur au château du comte Belski. Oh. Tu me vois, moi, aux inines.
Alors il faut demander un secours au gouvernement.
Je l'ai fait la semaine dernière. Ah,
père a raison. À force de quémander, nous perdrons tout espoir de trouver quelques crédits à la cour.
Oh, si tu crois qu'à Pétersbourg...
Tout se sait.
On pourrait peut-être...
Quoi?
Quand le père de notre jeune ami Grégoire Mikhailovitch Litvinov... Quand son père... Quand Mikhailovitch Litvinov habitait Moscou, avant de se retirer dans ses terres, il m'avait à plusieurs reprises obligé.
Il t'a prêté de l'argent que tu ne lui as jamais rendu, c'est ça que tu veux dire?
Oui, mais il est riche.
Et alors?
On pourrait peut-être demander à son fils, à notre jeune ami Grégoire.
Oh, ce petit étudiant? À ce gamin?
Ce gamin? Mais il a 6 ans de plus que toi.
Il est à l'université. Et tu voudrais, père, lui emprunter de l'argent? Oh, mais quelle humiliation pour nous, quelle honte! Il vient ici en visite prendre le thé. Il est stupide, d'ailleurs, ce garçon, il ne dit jamais un mot. Et tu voudrais lui soutirer de l'argent comme tu en as soutiré à son père? Eh bien, moi, tu entends, je m'y oppose. Par respect pour le nom que tu portes, je m'y oppose. Si tu fais cela, si tu oses faire cela, je quitte la maison.
Bon, n'en parlons plus.
Oh, tu bailles, l'ami? Tu t'amuses avec nous, hein? Grégoire Mikhailovitch! Eh bien, tu dors?
Non, j'écoute.
Qu'est-ce que tu as, Grégoire? Tu es malade?
Non.
Tu as reçu une mauvaise nouvelle de chez toi, de ton père?
Mais non.
En sacré bon sang, tu me caches quelque chose. Tu ne serais pas amoureux, par hasard?
Peut-être.
Aïe, aïe, aïe. Il ne te manquait plus que ça. Et ça ne s'arrange pas.
Ah, qu'est-ce que tu veux dire?
Est-ce que ça lui plaît à elle ou ça ne lui plaît pas?
Tu as une façon de t'exprimer.
Qui est-ce d'abord?
Tu ne la connais pas. Une jeune fille de la noblesse.
Hein?
Oui.
Mais tu n'es pas fou, non?
D'une noblesse déchue et assez pauvre. Son père est un ami du mien. Elle est étudiante à l'institut. Ah, si tu la voyais, mon vieux. Elle est blonde, élancée. Ce sont ses yeux, surtout. Verts. Étrange. Quand elle vous regarde, les paupières mi-closes avec son sourire dédaigneux, on est comme fasciné.
Eh ben, mon vieux.
Je n'ai d'ailleurs aucune chance.
Elle te l'a dit?
Non, mais...
Elle sait que tu l'aimes? Non? Tu ne lui as pas dit? Ah ça, tu es sonné à ce point? Mais c'est grave, dis donc.
Entrez, entrez, Grégoire Mikhaïlovitch, et soyez le bienvenu. Il fait très froid, n'est-ce pas?
Oh oui, Natacha Ozinine, très froid.
Eh bien, un thé bien chaud vous remettra. Entrez. Paul, Paul, hein? C'est notre jeune ami, Grégoire Mikhaïlovitch Livinov.
Oh, bonjour, bonjour, ami Grégoire.
Mes hommages à votre noblesse. Chère madame, je me suis permis de vous apporter quelques friandises.
Comme vous êtes gentille.
Et ces pâtes de fruits de Crimée pour mademoiselle Irène. Oh. Je sais qu'elle les aime.
Oh, Irène, regarde, Irène, regarde les douceurs que t'apporte Grégoire Mikhaïlovitch.
Bonjour, Irène Ozinine.
Bonjour, Grégoire Mikhaïlovitch. Merci. Vous êtes très aimable.
Mais vous jouiez du piano, je suis navrée de vous avoir interrompu.
Non, ça ne fait rien, j'avais fini.
Asseyez-vous, Grégoire Mikhaïlovitch, asseyez-vous. Avez-vous des nouvelles de votre père, mon vieil ami Mikhaïlov? Il va bien?
Bien, merci.
Ah, l'air de la campagne. Son exploitation marche-t-elle à son gré? Est-il content?
Il trouve que le blé ne se vend pas à son prix. Hein? Il se plaint que les paysans n'obéissent plus comme autrefois.
Oh, alors, c'est la fin du monde.
Père, je m'excuse, je suis obligée de sortir. J'ai rendez-vous avec une de mes camarades de l'Institut. Vous m'excusez, Grégoire Mikhaïlovitch.
Je vous en prie.
Oh, couvre-toi bien, Irène, car il fait très froid dehors.
Oh, pas plus froid que dans une maison sans feu.
Ah, eh oui, sans feu, c'est vrai. Et cela met mademoiselle de mauvaise humeur. Qu'y faire? Depuis 3 jours, nous attendons vainement que le marchand nous livre du bois.
Oh.
Et avec cela, impossible de se faire servir. Impossible de trouver de bons domestiques.
Oh.
Oui, c'est ennuyeux, mais Irène ne veut pas le comprendre.
Mademoiselle Irène est nerveuse.
Non, c'est une charmante enfant, mais si capricieuse. Oui. Quand elle était petite, il lui arrivait de nous réclamer tel ou tel jouet pendant des semaines avec des larmes et des cris. On le lui achetait, elle s'en amusait. 1 ou 2 jours, puis brusquement le laisser de côté, sans plus jamais le regarder.
Elle a bon cœur pourtant, mais voilà, n'est-ce pas? Elle est changeante, oui. Changeante comme un ciel de printemps.
Bonjour, Boris Tatchkine.
Bonjour, mademoiselle.
Je devais venir vous payer aujourd'hui.
Oui, vous l'aviez dit.
J'ai réglé ce qu'on devait à Alexis Ivanovitch. Voilà, je n'ai plus assez d'argent pour vous payer. Mmh. Alors, on vous attendrait bien 2 ou 3 jours encore, Boris Tatchkine.
Il faudra bien.
Nous n'avons pas de feu à la maison depuis 8 jours au moins.
Ouais.
Aussi, si vous vouliez bien nous envoyer du bois, ça m'obligerait beaucoup, Boris Tatchkine.
Ah, c'est bien pour vous que je le ferai, mademoiselle. Vous en aurez tantôt.
Ah, Jésus-Dieu, qu'il fait bon près du feu.
Paul, allons, secoue-toi. Hein? Nous devons être à 3 heures chez le gouverneur.
Oh, tu ne peux pas y aller seul.
Ah, non. Hein? Tu es le prince Osinin, et c'est toi qui dois parler au nom des Osinin. Pour demander au gouverneur que l'on augmente ta pension. Non, c'est toi.
Oh là 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 là, c'est humiliant.
Ben, je le sais. C'est bien pour ça que je t'accompagne, pour être sûr que tu iras. Allez, en route, Paul, en route. Irène, Irène.
Oui, oui.
Ah, viens, nous allons chez le gouverneur. Alors fais une prière pour nous.
Oh, les prières.
Et ne reste pas dans la chambre à te geler. Prends mon fauteuil et chauffe-toi.
Oui.
Profite du feu.
Au revoir et bonne chance.
Neuf.
Ah. Entrez. Entrez, Grégory Mikhailovitch. Entrez.
Bonjour, mademoiselle Irène.
Oh, qu'il fait bon chez vous. Quel beau feu.
Ah oui, n'est-ce pas? Asseyez-vous.
Merci. Vos parents ne sont pas là?
Ils sont sortis il n'y a pas 2 minutes. Vous avez dû les croiser dans la rue.
Oh, je suis navré.
Ils avaient rendez-vous avec le gouverneur.
Ah. Eh bien, je vais me retirer. Je reviendrai. Demain, peut-être.
Et pourquoi voulez-vous partir? Pourquoi? Je vous fais peur? M'accompagnez-vous des plaies?
Oh non, Irène! Vous savez bien que non. Au contraire.
Alors ne vous en allez pas. Et puis, parlez-moi de vous, de vos études, de ce que vous comptez faire dans la vie. Dites-moi quels sont vos auteurs préférés. Et en dehors de vos cours. C'est votre 3e année, n'est-ce pas?
Ma dernière année.
En dehors de vos cours, qu'est-ce que vous faites? À quoi occupez-vous vos loisirs? Vous allez au théâtre? Au bal? Vous dansez? Vous ne dites jamais rien de vous, de votre vie. Vous vivez seul?
Mais naturellement.
Ah bien! Sait-on jamais? Et quelles sont vos idées politiques? Les héros que vous admirez?
Mirabeau, Robespierre.
Oh, Robespierre! La Révolution française! Oh, que c'est amusant. Mais vous êtes démocrate, alors? Républicain?
Peut-être.
C'est admirable. Mais savez-vous que mon arrière-grand-père l'était aussi démocrate? Le vieux prince Osinin que le tsar Pierre a condamné, exilé?
Oui, je le savais.
Et à part ça, qu'est-ce que vous aimez?
Vous?
Vous dites?
Je dis que je vous aime, Irène.
Oh, Grégor Mikhailovitch, est-ce possible? Vous...
Je vous aime, Irène. Depuis le premier jour où je vous ai vue.
Vous? Oh! Eh bien!
Oui, tout est dit maintenant. Vous êtes la fille du prince Osinin, et moi, je ne suis qu'un pauvre étudiant. Alors, je dois m'en aller. Et ne plus vous voir, n'est-ce pas?
Non! Restez là, près de moi. Alors restez, je le veux. Parce que moi aussi, Grégor, moi aussi, je suis très heureuse, si heureuse que vous m'aimiez.
Irène. Irène.
Ce que tu me racontes là, Natacha, est stupéfiant. Irène et Grégor?
Oui, mais parle plus bas, elle peut t'entendre. Oui, Irène et Grégor. Depuis 2 mois, ils se rencontrent dehors, en cachette. Elle me l'a avoué elle-même ce matin.
Stupéfiant. Et ils avaient l'air ici d'être tout à fait étrangers l'un à l'autre.
Oui, quoique... Je les avais entendus la semaine dernière chuchoter tous les deux dans l'antichambre, au moment où ils partaient. Et il m'avait bien semblé qu'ils s'embrassaient.
Qu'ils s'embrassaient?
Oui.
Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit?
Je n'en étais pas sûre. Mais Irène m'a tout raconté ce matin. Ils ont des rendez-vous en ville, dans les cafés ou à la promenade.
Oh, tu crois... Tu crois qu'elle est sa maîtresse?
Ah, sûrement pas. Si tu connaissais la petite comme je la connais. Non, Irène n'est pas une fille à se donner à un homme, quel qu'il soit, avant le mariage, même si elle l'adorait. Elle n'obéit ni à son cœur, ni à ses sens. Tout se passe dans sa tête.
Ah, pour ça, oui, c'est une femme de tête. Mais ça n'est pas avec ce Grégor Mikhailovitch qu'elle nous tirera de l'ornière. J'avais rêvé autre chose pour elle.
Grégor Mikhailovitch va venir te demander sa main.
Ah.
Oui, elle me l'a annoncé.
Quelle mésalliance! Une princesse épousée ce... Certes, ça n'est pas tout à fait un roturier. Sa mère était de petite noblesse. Et la famille a de la fortune. Mais lui n'a aucune situation.
Tu peux lui refuser ton consentement.
Ben allons donc. Est-il jamais arrivé qu'Irène ne fasse pas ce qui lui chante? Tu connais sa violence, son entêtement. Oh, Madame Litvinov. Elle sera Madame Litvinov, tout court. Moi qui comptais donner ma fille à un comte, à un diplomate ou à un général. Ah, je tombe de haut. Mais triste. Très triste.
Je parie que le voilà. Tiens, je vais lui ouvrir.
Père, ce doit être Grégor Mikhailovitch.
Eh bien, qu'il entre. Il vient me demander ta main, n'est-ce pas?
Ah, maman t'a dit?
Oui. Et toi, qu'est-ce que tu as à me dire?
Et rien. Sinon que nous sommes fiancés.
Ah.
Entrez. Entrez, Grégor Mikhailovitch. Nous vous attendions.
Tout s'est passé comme tu le désirais?
Oui, oui. Mon futur beau-père, enfin je veux dire le prince, a été correct. Un peu froid, mais correct. Ce mariage n'a pas l'air de l'enchanter. Les Osinines auraient préféré naturellement qu'Irène épousât quelqu'un de leur condition.
Oh, de leur condition? Elle n'est pas brillante, leur condition.
Enfin, le mariage se fera au printemps. J'ai écrit à mon père. J'attends sa réponse.
Et tes études? Tu comptes les terminer tout de même?
Bien sûr. Pas question à présent que j'aille m'enterrer à la campagne. Je dois, dès que j'aurai fini à l'université, m'installer à Moscou et ouvrir un cabinet d'avocat. Ah, voilà Irène. Nous avions rendez-vous ici.
Je vais vous laisser.
Non, 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 reste, reste. Je tiens à te la présenter. Bonjour, Irène. J'ai rencontré ici mon camarade de Petrov Tchelkounov. Voulez-vous me permettre de vous le présenter?
Je suis très honoré, mademoiselle.
Enchantée.
Asseyez-vous, Irène. Du thé, n'est-ce pas?
Oui, merci. Oh, Grégor. Grégor, vous avez de l'encre sur les doigts. Hmm? Mais vous ne vous lavez donc pas les mains en quittant le cours? Mettez au moins des gants. Enfin, voyez, votre ami est ganté, lui, comme tout homme distingué doit l'être.
Mais vous avez raison, Irène. J'étais tellement pressé, j'ai négligé...
Cher Grégor, je m'excuse. Permettez-moi, mademoiselle, de prendre congé. J'ai moi-même un rendez-vous urgent. J'espère avoir le plaisir et l'honneur de vous revoir.
Mais je l'espère aussi, monsieur.
À demain, Grégor.
Vous voyez, Grégor, vous m'avez fait honte avec vos mains tachées d'encre, votre vieille redingote, à côté de ce jeune homme si distingué. Avez-vous reçu une réponse de votre père?
Oh, pas encore, il faut le temps.
Je pense bien qu'il va vous envoyer de l'argent, beaucoup d'argent. Et il vous en faudrait pour vous vêtir convenablement, et la noce coûtera cher. Pensez-vous que vos parents viendront à Moscou pour le mariage? Oh! Ce serait bien des frais inutiles. Vous n'en avez pas?
Certainement, mais...
Oui.
Eh bien... Eh bien, Irène chérie, tu es muette tout à coup. Tu as l'air triste.
Oh oui, alors, allons-nous-en d'ici. Je trouve cet endroit horrible. Hein? Cette taverne est un vulgaire. Allons payer, Grégor. Payez vite et allons-nous-en.
Ah bon?
Tout le monde nous regarde et ça me fait honte.
Garçon,
Tenez, garçon.
Ah, mon Dieu, de l'air, de l'air. Il y a un jardin public tout à côté, alors venez.
Bien.
On sera très bien sur ce banc, n'est-ce pas? C'est gentil ici.
Oui.
Irène. Irène, qu'est-ce que tu as? Tu pleures?
Non, non.
Mais comment non? Tes yeux sont pleins de larmes. Une scène avec tes parents?
Mais non.
Tu n'es pas malade au moins.
Oh, je me porte très bien, hélas.
Mais pourquoi hélas?
Parce que tu voudrais être morte, oui, quoi? Voilà. Mais enfin, tu ne vois rien, non, tu ne vois pas ma robe, la robe que je porte.
Ta robe? Oui, eh bien, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a que je n'en ai pas d'autre, qu'elle est vieille, laide, et que je suis obligée de mettre cette robe tous les jours, même quand je te vois. Et qu'à la fin, tu finiras par ne plus m'aimer en me voyant si pauvre, si dégueulée.
Oh, mais tu es folle, Irène. Cette robe est charmante. Et je l'aime d'autant plus que c'est celle-là, oui, c'est cette robe-là que tu portais la première fois que je t'ai vue.
Oh, quel affront! Oh, ne me rappelez pas, Grigor Mikhailovitch, ne me rappelez pas que déjà je n'en avais pas d'autre. Il y a près d'un an de cela. Oh.
Je t'assure qu'elle te sied à ravir.
Oh non, non, non. C'est vrai? Même avec cette abominable robe, tu m'aimes. Tu m'aimes.
Quel enfant tu fais.
Ça y est, Natacha, écoute. Je viens de voir l'affiche de la Gazette. La cour arrive à Moscou. Notre père, le tsar Nicolas, et toute la cour. Et il y aura des fêtes, et puis encore des fêtes. Et pour finir, le grand bal de l'Assemblée de la Noblesse.
Oh, tu en fais un bruit.
Oui. Hola. Oh là là. Serge, Fedor, Katia, hola, Nikita, hola, tous mes domestiques.
Mais enfin, on n'en a jamais eu de domestiques. Tu deviens fou.
Eh bien, faisons comme si on en avait. Qu'on sorte mon habit de cérémonie. Ma cravate blanche, ma médaille de la noblesse avec le grand cordon de Saint-Vladimir. Nous allons assurer de notre amour, de notre dévouement, notre Saint-Père le Tsar. Boje Tsara Krani.
Assez de gens de faux,
voyons. Oui. Tu ne veux donc pas assister aux fêtes?
Je ne sais pas si ma robe de soie à l'ancienne mode est encore possible.
Pas de discussion, nous irons au bal. Ne serait-ce que pour y conduire Irène.
Ah mais non! Non, non. Allez-y si vous voulez, mais moi je n'irai pas.
Et pourquoi, s'il vous plaît, mademoiselle?
Je n'ai pas de robe du soir.
Ta mère t'en fera une.
Oh, quelle pitié. Je n'ai pas de collier, pas de bijoux, pas de souliers de soirée, pas d'éventail, rien. Je n'ai rien. J'aurais l'air, si j'y allais, à coûterait comme tu le souhaites, j'aurais l'air d'une pauvresse. Ah, non, merci bien.
Oui, bien, quand on est la fille du prince Ozinin, on n'a pas le droit de se dérober. On n'a pas le droit de fuir le monde. C'est un devoir pour la vieille noblesse d'accueillir notre père le tsar et la cour. C'est pour nous, pour toi, une occasion inespérée de rentrer en grâce. Et pour moi, qui sait, l'espoir d'être pourvu d'une bonne sinécure à Pétersbourg. Ah, voilà ton fiancé, va lui ouvrir. Je vais demander à Grigor Litvinov ce qu'il en pense.
Je vous salue, chère Irène.
Dites-moi franchement votre avis, Grigor. Convient-il, oui ou non, qu'Irène aille au bal de la noblesse?
Ah, son absence serait, je crois, mal interprétée.
Ah.
Oui, je pense, chère Irène, que vous devez aller à ce bal.
Ah, vraiment? C'est vous? Vous qui désirez cela?
Oui, je suis de l'avis de votre père.
Ah.
Et pourquoi d'ailleurs n'iriez-vous pas dans le monde? Vous y montrez, vous...
M'y montrez?
Oui.
C'est bien, j'irai. Souvenez-vous seulement que c'est vous qui l'avez désiré. Oui. Mais voici une condition. Promettez-moi, vous, de ne pas venir à ce bal.
Oh, pourquoi ? Je souhaite pourtant vous admirer dans toute votre grâce, être l'heureux témoin de l'impression que vous produirez, être fier de vous, enfin.
Oh, de cette splendeur consistera en une pauvre robe blanche taillée et cousue par ma mère et des bijoux que l'on m'aura prêtés. Enfin, n'insiste pas, Grégoire, je ne veux pas que tu viennes.
Oh, tu es fâchée ?
Ah non, mais non, je ne me fâche pas, mais je suis étonnée que ce soit toi qui... Enfin, peut-être est-ce nécessaire.
Irène, tu m'aimes toujours.
Bien sûr, mais bien sûr, je t'aime, bien sûr.
Oh, quelle foule! Jamais le bal de la noblesse n'aura attiré autant de monde.
Bah, toute la cour est là, pense donc. Et le tsar en personne. Mais pourquoi n'y es-tu pas allé, toi? Le prince aurait pu t'y emmener, tu es le fiancé de sa fille.
Non, c'est moi qui n'ai pas voulu.
Bah, tu aurais vu ton Irène dans sa belle robe de soirée.
Mais je l'ai vue. Je suis allé chez eux lui porter un bouquet d'héliotrope. Elle finissait de s'habiller. Mais sais-tu qu'elle-même ne voulait pas y aller à ce bal? Ses parents et moi-même ont, pour qu'elle s'y rende, dû insister. Et tout à l'heure encore, au moment de partir, elle m'a dit « Tu n'as qu'un mot à dire et je n'y vais pas ». Ah, elle était vraiment dans sa robe blanche toute simple, d'une grâce, d'une beauté incomparable. Le prince et la princesse, ses parents, avaient grand air aussi dans leur costume de gala. J'avais commandé pour eux une voiture de louage qui est venue les prendre chez eux. Le prince exultait, mais Irène avait l'air crispée. Elle souffrait de n'avoir pas une plisse comme sa mère et seulement ce petit manteau qu'elle porte à la ville. Et qui lui fait horreur. Pauvre Irène.
N'est-ce pas le tsar?
Non, non, le prince Fedorovitch.
C'est vous, Grégor Mikhailovitch.
Je ne viens pas trop tôt?
Oh non, je me suis levé à midi et nous n'avons pas encore déjeuné.
Je venais présenter mes hommages à Irène.
Elle est couchée, avec un fort mal à la tête. Je ne pense pas qu'elle se lève avant ce soir.
Elle n'est pas souffrante?
Non, fatiguée seulement. Rompue tous les trois de fatigue. Et comment ne pas l'être après les événements d'hier?
Les événements?
De vrais événements! Vous ne sauriez imaginer, Grégor Mikhailovitch, le succès qu'a remporté Irène.
J'en étais sûr.
Mais toute la cour l'a remarqué. Le prince Alexandre a dit que sa place n'était pas ici et qu'elle lui rappelait la comtesse de Von Scheir. Vous savez, la célèbre comtesse. Le vieux comte Blasenkramp a déclaré qu'Irène était la reine du bal et a exprimé le désir de lui être présentée. À moi aussi, il a été présenté. Et il s'est souvenu de m'avoir vu quand j'étais officier de hussards. Il m'a demandé où je servais maintenant. Très amusant, ce comte. Et un grand admirateur du beau sexe.
Ah oui?
Ah oui. Irène a dansé avec tous les meilleurs cavaliers. On m'en a tant amené et présenté que j'en ai perdu le compte. À la mazurka, on se disputait Irène, littéralement. Un diplomate étranger a dit à l'empereur, après avoir dansé avec Irène, « Sire, c'est à Moscou qu'est le centre élégant de votre empire. » Textuel.
Et Irène, c'était l'amusée au moins. Paraissait-elle satisfaite?
Mais elle était aux anges. Tous me disaient, on ne dirait jamais que mademoiselle votre fille en est à son premier bal. Le comte de Rosenbach, entre autres, vous le connaissez sûrement.
Non, pas du tout.
Non, mais il est le cousin de ma femme.
Je ne le connais pas.
Un Richard, un chambellan de la cour. Il vit à Pétersbourg. C'est un homme à la mode. Jusqu'à présent, il ne se souciait guère de nous. Eh bien, tout a changé. Il s'est assis auprès d'Irène. Il a causé avec elle un petit quart d'heure, puis il a dit à la princesse, à ma femme, « ma cousine, votre fille est une perle, une perfection. » Après cela, je l'ai observé, il s'est approché d'un très grand personnage de la cour, lui a parlé sans quitter des yeux Irène, et le dit personnage regardait Irène...
Oui, alors, je ne pense pas que je pourrais voir Irène de la journée.
Oh non, 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 laissez-la se reposer. Elle m'a chargé de vous saluer et de vous remercier encore de votre joli bouquet. Voilà, voilà, cher Grigor Mikhailovitch, soyez tout à fait rassurés. C'est une soirée qui comptera dans notre vie. Une soirée... inoubliable.
Certainement, certainement. Au revoir.
Au revoir, Grigor Mikhailovitch. Au revoir.
Hé hey, ma fille, dites-moi, est-ce que M. Grigor Litvinov est dans sa chambre?
Oui, certainement.
Il n'est pas sorti aujourd'hui?
Si.
Je ne l'ai vu ni au cours, ni à notre restaurant. Il n'est pas malade?
J'espère que non. Quoique, quand il est rentré cet après-midi, il paraissait préoccupé, oui.
Un diable. Merci.
Qui est là?
Petrov.
Entre.
Oh. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air bouleversé.
Non, rien. J'ai dû prendre froid cette nuit, en regardant ces messieurs de la noblesse arriver au château.
Tu as des nouvelles d'Irène?
Oui. Non. Enfin, je n'ai pas pu la voir tout à l'heure. Elle était fatiguée de sa nuit blanche. Elle dormait encore. Mais j'ai vu son père.
Et alors?
Alors, il paraît qu'Irène a eu un succès extraordinaire. Elle était la reine du bal. Je te rapporte ce que m'a dit son père. Les princes, les grands-ducs, tous étaient à ses genoux. Notamment un certain comte Reusenbach, chambellan de la cour et cousin éloigné des Osinines. Tu connais ce nom-là, toi?
Oui, il me semble.
Bref, je n'ai pu voir ni la princesse ni reine. Mais comme je sortais de chez eux, il devait être 3 heures de l'après-midi, après mon entretien avec le prince, j'ai vu un élégant coupé s'arrêter devant la maison des Osinines. Et un laquais assis sur le siège m'a demandé si c'était là que demeurait le prince Paul Vassilievitch Osinine. J'ai répondu affirmativement et j'ai regardé dans la voiture. Il y avait là un monsieur d'environ 50 ans, massif et à l'air arrogant, avec un nez grec et des lèvres méchantes, enveloppé d'une plisse de castor, un Richard, quoi. Il tenait à la main un énorme bouquet de roses.
Et alors?
Alors, il est descendu de voiture et je l'ai vu entrer dans la maison.
Et c'est tout?
C'est tout. Je n'ai pas pu voir ma fiancée, mais lui, il l'a vu, certainement.
Tu n'en sais rien, Grigor.
Ah, quand je pense que j'ai dû insister auprès d'elle. Elle refusait d'y aller. Souvenez-vous, m'a-t-elle dit, que c'est vous qui l'aurez voulu. Ah, je comprends maintenant. Quoi? Qu'est-ce que c'est?
Monsieur Litvinov, une lettre pour vous.
Donnez.
Voilà.
Merci. C'est Irène. Son écriture. Attends, lis, Petrov, lis, j'ai peur.
Oui. Oh, mon pauvre Grigor. Enfin, je pense que ça va te guérir d'un seul coup. Ah, tu l'auras échappé belle.
Mais lis d'abord.
Pardonnez-moi, Grigor Mikhailovitch. Tout est fini entre nous, hélas. Je vais partir pour Pétersbourg.
Non.
Pour Pétersbourg. Je suis accablé, mais la chose est décidée. Sans doute, telle était ma destinée. Mais je ne veux pas me justifier. Mes pressentiments se sont réalisés. Pardonnez-moi, oubliez-moi, je ne suis pas digne de vous. Signé Irène. Et en post-scriptum, soyez généreux, ne cherchez pas à me revoir. C'est gentil, très gentil. Alors, mon pauvre Grigor, tu as de la peine,
hein? Oui. Oui.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, je vais te donner un conseil. Si tu restes à Moscou, Tu vas à longueur de journée ruminer ton dépit, ton chagrin. Tout ici te rappellera ton Irène. Quitte Moscou. Tu reprendras tes cours plus tard. Boucle tes valises et prends le premier train. Retourne dans ta province auprès de tes parents. Tu oublieras plus facilement et plus vite là-bas.
Peut-être.
Mais crois-moi, ce n'est pas une perte que tu fais. Quand on tombe sur une garce de cette espèce, il vaut mieux s'en apercevoir avant la noce qu'après.
Je suis bien heureux que tu te plaises ici, mon garçon. Nous devenons bien vieux, ta mère et moi. Et ce domaine est une lourde charge. 7 ans déjà depuis que tu es revenu de Moscou.
Eh oui, père, 7 ans.
Es-tu heureux, au moins? Tu ne t'ennuies pas trop?
Dans les guerres, le temps.
Tu as fait un travail excellent. La remise en exploitation de la scierie de bois, demi-démolie. Le défrichement de plus de 100 hectares.
Il en reste autant à défricher. J'espère trouver un bon régisseur.
Il le faudrait, si tu te maries avant l'hiver et si vous partez avec Tatiana en voyage de noces pour un mois.
Tatiana et sa tante souhaiteraient que le mariage ait lieu en automne. Je suis d'accord. Nous en déciderons la date ensemble le mois prochain, puisque nous allons nous retrouver à Baden-Baden.
Ah, mon garçon, tu auras en Tatiana une épouse digne de toi. Nous la connaissons depuis son enfance. Elle est notre petite parente, et elle héritera de sa tante une belle fortune. Tatiana est fort jolie fille et a reçu une éducation parfaite. Tu es bien tombé cette fois.
J'en suis sûr, père.
Ah, ton aventure à Moscou. Ah, j'en ris encore quand j'y pense. Nous recevons une lettre de toi nous annonçant tes fiançailles avec une princesse. Et 8 jours après, nous voyons arriver tout déconfiant, nous disant « Tout est rompu ». Et au fait, qu'est-elle devenue ? Cette fille Osinine.
J'ignore. Il y a quelques années, j'avais reçu une lettre de Petrov, mon ancien camarade à l'université. Il me disait qu'elle habitait Pétersbourg, chez ses cousins, le comte et la comtesse Reisenbach, qui la traitaient comme leur fille, et qu'elle était la coqueluche de tous les salons de la ville et de la cour. Son rêve. Elle ne l'eut certes pas réalisé avec moi.
Et... tu ne regrettes pas, toi, de n'avoir pas terminé tes cours?
Oh non! Tu me vois à Moscou, petit avocat sans cause, vivant à vos crochets? Non, tout cela est loin, n'y pensons plus.
Quand comptes-tu rejoindre à Baden-Baden ta fiancée?
Tatiana et sa tante doivent y arriver à la fin du mois prochain. Je voudrais les y précéder de quelques jours et les aider à s'y installer. Garçon, où sont les salles de jeu?
Et tout au fond, à votre gauche, monsieur.
Bien, merci.
Ah, oh, par exemple, je ne me trompe pas, Grigor Mikhailovitch Litvinov, ici, à Baden-Baden.
Moi-même.
Vous ne le connaissez pas? Goubarev, avocat à Pétersbourg. Nous étions ensemble à l'université à Moscou.
En effet, je me souviens... Goubarev, enchanté.
Vous vous êtes retiré dans vos terres, m'a-t-on dit? Bravo. Et vous venez à Baden-Baden vous retremper dans la vie élégante?
Non, je viens simplement y rejoindre ma fiancée et sa tante.
Ah, vous allez vous marier. Compliment.
Oui, et comme Madame Chestol et sa nièce Tatiana Petrovna, ma fiancée vont venir passer un mois à Baden.
Vous y venez aussi, voilà. Bravo. Oh, c'est si amusant, Baden. Regardez-moi ce joli monde. Toute l'Europe est ici. barons allemands, comtessines italiennes, généraux russes, ladies anglaises et lorettes de Paris. Vous entendez parler ici toutes les langues. Et c'est gai, ça change de notre vieux Moscou, hein. Potouguine. Bonjour, Potouguine. Cher Litvinov, vous ne connaissez pas Potouguine? Non, c'est vrai. La Potouguine, c'est Pétersbourg. Et mon ami Potouguine, conseiller de cour en retraite, haut fonctionnaire au ministère des Finances hier encore. Mon ami Grigor Mikhailovitch Litvinov, riche propriétaire, gentleman farmer, n'est-ce pas?
Enchanté.
Enchanté.
Alors, quoi de neuf à Pétersbourg, Potouguine? Il paraît que le prince, je ne dis pas son nom, aurait déclaré dans le salon de la princesse Mathilde à Paris, en présence de l'empereur Napoléon, que le principe de la propriété était fortement ébranlé en Russie. Est-ce exact?
Moi, vous savez, je ne fais pas de politique. Ah,
bravo. Eh, dites donc, Litvinov, vous connaissez la dame en rose, là? Là, derrière vous. Elle monte le grand escalier.
Non, pourquoi?
Elle vous a regardé avec une telle insistance.
Qui, moi?
Oui, vous. Oh, ce n'est pas à Potouguine qu'elle en voulait. Potouguine parlait à ce moment-là avec Finikov, le consul de Russie. Non, c'est bien vous. Elle a même soulevé sa voilette pour mieux vous examiner. Et elle s'est retournée deux fois.
Je l'ai remarqué.
N'est-ce pas?
Je ne connais pas cette dame.
Et moi, je la connais. C'est Madame Irène Pavlovna Ratmirov. L'épouse du général Ratmirov, aide de camp de Sa Majesté le Tsar. Irène Pavlovna, la fille du prince Ozinin.
Ah bah.
Sans doute l'avez-vous connue à Moscou.
Oh, mais oui, nous ne connaissions qu'elle.
Oui?
Monsieur Potoukine demande à être reçu par Monsieur Litvinov.
Ah, qu'il entre?
Bonjour, cher monsieur.
Oh, mais voilà qui est fort aimable. Bonjour, monsieur.
Asseyez-vous.
Merci. Pardonnez-moi, monsieur, de venir vous importuner à votre hôtel. Notez que c'est toujours avec plaisir que je viens. Mais on m'a dépêché vers vous pour... En un mot, j'ai pour vous une commission urgente.
De qui donc?
D'une personne qui vous est connue. De Madame Irène Pavlovna Ratmirov, née Ozinin.
Vous connaissez Madame Ratmirov?
Oui. Beaucoup. Oui.
Ah. Et savez-vous pourquoi Irène Pavlovna désire me voir?
Je le sais. Jusqu'à un certain point. Madame Ratmirov a été très heureuse de vous savoir à Baden et voudrait renouer avec vous d'amicales relations.
Renouer? Excusez mon indiscrétion, mais savez-vous de quel genre étaient ces relations? Amical.
Je présume qu'elles étaient excellentes. Si j'en crois le grand éloge qu'Irène Pavlovna m'a fait de vous. Alors, acceptez-vous de venir, monsieur Litvinov?
Mais quand?
Mais tout de suite, si vous le voulez bien.
Reposez-vous d'abord un peu. Je vous avoue que tout cela... Le désir d'Irène Pavlovna d'abord, et puis votre démarche. Enfin, tout cela me paraît étrange. Vous êtes l'ami de Madame Ratmirov, son ami?
Un de ses amis. Oui. Oui. Et ce qui vous paraît étrange surtout, c'est qu'avec ma pauvre et triste figure, ma situation médiocre dans le monde, je puisse être l'ami de Madame Ratmirov. n'est-ce pas? Eh bien, prenons une métaphore. Voici un arbre. Il paraît impossible que la feuille d'une branche inférieure puisse atteindre la feuille d'une branche supérieure. Hein? Mais vienne l'orage, les deux feuilles tout à coup se rapprochent et se rejoignent.
Ah, il y a donc eu des orages.
Avec les femmes, monsieur. Vous ne connaissez pas ce mot d'une actrice naïve mais franche qui s'écriait « que je suis malheureuse, je n'aime pas plutôt quelqu'un que j'en préfère un autre ». Allons, monsieur, venez. Nous voici à l'appartement des Ratmirov, monsieur. Elle est là.
Oui. Le piano, je reconnais l'air.
Entrez, monsieur. Voici Grégoire Mikhailovitch.
Ah, le voilà. Soyez le bienvenu, Grégoire. Et merci à vous. Grand merci, Sir Ivanov Botugin. On vous verra au Raoul de la Duchesse tantôt.
Certainement.
Ah, bon, bon.
Bon, je vous laisse, n'est-ce pas?
Merci. Et à bientôt. Oui. Asseyez-vous, cher Grégoire. Mon mari est au casino, il va rentrer bientôt, je pense. Vous ferez connaissance. Ah, Grégoire, il y a si longtemps que nous ne nous sommes vus.
Oui, depuis Moscou.
Depuis Moscou. Savez-vous, Grégoire Mikhailovitch, que vous n'avez pas changé?
Ah, mais vous, Irène Pavlovna, vous avez beaucoup changé.
Vieilli?
Non, changé d'allure. Et d'ambiance.
Vous savez, j'ai désiré votre rencontre, Grégoire, parce qu'elle me donne la possibilité de vous demander pardon.
Oh.
Si, j'ai été coupable à votre égard, quoique telle était sans doute ma destinée. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, ce sera en tout cas trop tard. Mais je me suis dit que nous devions absolument redevenir amis. Et j'aurais beaucoup de peine si vous vous y refusiez. Cela signifierait que vous me gardez rancune.
De grâce, Irène Pavlovna, pourquoi vous excuser? Je passais à fuir comme l'eau.
Oui, oui, oui. Vous avez sans doute depuis longtemps tout oublié. Mais dites-moi que vous m'avez pardonné.
Mais oui.
Alors, je vous tends la main. Et maintenant, parlez-moi de vous, Grégoire, de votre vie en province, de vos projets. Quoique je ne vous ai pas perdu de vue, vous savez.
Oh, est-ce possible? Au milieu de l'éclat qui vous entourait, vous avez pu...
Nous reviendrons sur cet éclat.
Vous connaissez depuis longtemps ce monsieur Potugin?
Oh, depuis des années. Il était le protecteur d'une de mes amies intimes, Elise Beskly. N'est pas connue. Mais vous... J'attends que vous me parliez de vous, Grégoire.
Tant d'eau a coulé depuis 7 ans.
Pas de l'eau seulement.
Vous êtes marié depuis longtemps?
3 ans.
Vous n'avez pas d'enfant?
Non.
Et jusqu'à votre mariage, vous avez vécu chez vos cousins, les Reusenbach?
Non. Non, non, non.
Savez-vous si madame est là?
Voici le général.
Bonjour.
Ah, vous voilà déjà revenu. Quelle heure est-il?
4h30, cher ami. Et tu n'es pas encore habillé? Ah, je vois qu'un hôte très aimable vous a fait oublier l'heure.
Grégoire Mikhailovitch Litvinov, un ami d'enfance. Mon mari, le général Vladimirovitch Ratmirov. Monsieur Litvinov est un riche propriétaire terrien de la province de Moscou.
Enchanté, monsieur, enchanté. Moi, je suis pour la grande propriété et contre la petite. Faites-vous de la politique, monsieur?
Je ne fais pas de politique, général.
Et je vous en félicite. Oh, remarquez, je ne suis pas l'ennemi de ce qu'on appelle le progrès, mais toutes ces universités, ces séminaires, ces écoles populaires, ces étudiants, tout ce fretin, c'est pire que le prolétariat. Voilà ce qui m'effraie. Est-ce qu'il faut enrayer à tout prix, vous entendez, à tout prix?
Le gendarme, par un beau dimanche. Pas de courrier pour moi, Irenka?
Non.
Ne laissez pas la racaille résonner. Et surtout, ne nous donnez pas des avocats, ni des jurés. Et ne touchez pas à la discipline militaire. À part ça, je n'ai rien contre le progrès. Libre à vous de construire des ponts, des quais, des hôpitaux et d'éclairer les rues au gaz. Mais pour tout le reste, de la poigne, hein? Avec des formes, mais de la poigne. De gendarmes par un beau...
Ah, Vladimir, fini avec tes gendarmes. Tu ne connais même pas la suite.
Non, c'est vrai. Connaissez-vous cette chanson, monsieur... Monsieur...
Litvinov. Non, je ne la connais pas.
C'est une chanson nouvelle qui vient de Paris. Très drôle. Une chanson à la mode. De gendarmes par un beau dimanche. Connaissez-vous Paris, monsieur... Monsieur...
Litvinov. Non, général.
Paris, monsieur Litvinov. Paris. Les boulevards, Tortoni, le café anglais, les variétés, Offenbach et le palais royal. Oh, tchon, tchon, comme disent nos amis allemands. De gendarmes,
Général, répondit Pandore, général, vous avez raison. Non.
Irenka n'aime pas cette chanson. Va vite t'habiller, ma jolie. Nous allons être en retard pour le raout chez la duchesse de Württemberg.
Tu permets le temps de raccompagner notre hôte.
Enchanté, monsieur Litvinov. Et au plaisir de vous revoir. Alors, dépêche-toi, Irenka. Dépêche-toi.
Général.
Grégoire, j'espère que nous nous reverrons bientôt, n'est-ce pas?
Oui.
Car enfin, vous ne m'avez rien dit de vous. Et surtout... Vous m'avez caché le plus important.
Quoi donc?
On m'a dit que vous vous mariez. Est-ce vrai?
Oui, je me marie.
N'est-ce pas? Oh, j'ai besoin de vous parler, Grégoire. Tenez, venez me voir demain ou après-demain. Je ne sors pas avant 5 heures et je suis seule. Vous viendrez? Oh, promettez-moi de venir.
Je ne sais pas. Peut-être. Bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, vous n'en finissiez plus? 5 heures? Tu ne t'habilles pas?
Non, j'ai mal à la tête.
Mais la duchesse...
Allez-y seule.
Oh, ce monsieur... Comment s'appelle-t-il déjà, en fait?
Litvinov.
Oui, ce monsieur Litvinov. Il m'a l'air de vous préoccuper beaucoup. Vous le connaissiez depuis longtemps?
Depuis Moscou, depuis 10 ans.
Il ne parle guère. Je présume que c'est un républicain, dans le genre de votre ami Potoukine. Encore un génie muet.
Il vaut mieux se taire parfois que de dire des bêtises.
Attrape. Au fait, qu'y a-t-il eu autrefois entre vous et ce monsieur Litvinov, hein?
Mais ça ne vous regarde pas.
Ah, ça par exemple. Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que c'est?
Mais vous êtes jaloux. Comment vous?
Mais...
Par exemple. Mais... Oh, il est jaloux. Oh, jaloux. Oh, et puis fichez-moi la paix,
hein?
J'ai sommeil, je ne sors plus là.
Oh, ben ça par exemple, c'était...
Les voyageurs pour Weimar, Frankfurt, Mayaz, Mannheim, Baden-Baden, quelle grande voiture.
Dépêchez-vous, ma tante. Le train va partir. Vite.
Mon Tatiana, monte.
Oui.
Et les parapluies? Tu n'as pas oublié les parapluies?
Mais non.
5 bagages.
Oui.
Hein? Compte bien. 5.
Oui. Mais ils sont là, dans le filet. Montez, ma tante.
Oui.
Donnez-moi la main.
Là.
Ah, le train part.
Oh, je suis contente.
Oh, et moi si heureuse de revoir Grégoire. Si heureuse. Oh, quel bonheur.
La chambre de Monsieur Litvinov, c'est ici?
Oui, madame.
Qui est là? Oh! C'est vous, Irène?
Je peux entrer? Vous n'êtes pas venu me voir, ni hier, ni avant-hier, alors je vous rends votre visite. Pourquoi me fuyez-vous, Grigor? Pourquoi?
Vous demandez pourquoi? Après ce qui s'est passé entre nous? Il vous plaît, n'est-ce pas, d'exercer votre pouvoir sur moi, comme jadis? Mais c'est à moi de vous demander pourquoi. Nos routes sont à présent si différentes.
Oh, Grigor, si je croyais avoir le moindre pouvoir sur vous, je serais la première à vous éviter. Si je me suis décidée, malgré mes fautes passées, à vous revoir, mais c'est parce que...
Parce que?
Parce que je n'en pouvais plus. J'ai tout fait dans ce monde que je hais. Et rencontrant un homme, enfin, un homme, au milieu de tous ces mannequins et ces grotesques, je suis allée vers lui comme... Comme vers...
Vous avez choisi votre lot.
Eh oui, je l'ai choisi. Mais ne croyez pas que je sois heureuse.
En tout cas, Irène, vous êtes bien imprudente. Venir ici, dans cet hôtel, seule?
J'y suis venue avec Potugin. Il m'attend dans le salon en bas.
Avec Potugin, de mieux en mieux. Il a été votre amant autrefois.
Mais non. Oh, et puis laissez donc mon passé où il est. Suis-je donc devenu si laide et si vieille que vous puissiez être aussi méprisant, aussi dur envers moi?
Vous êtes jeune et vous êtes belle. Plus belle et plus désirable encore qu'autrefois, et vous le savez.
C'est vrai.
Oui. Et c'est pourquoi je ne veux pas vous revoir. Vous entendez? Je ne le veux plus.
Je comprends.
Quoi?
Je comprends ce que vous dites. Parce que moi aussi, j'éprouve en vous revoyant le même sentiment qu'autrefois. La même attirance.
Non, je ne vous crois pas.
Un imbécile qui ne voit rien, qui ne devine rien. Si je vous disais que je n'ai jamais aimé personne après vous, personne. Oh, si je te disais
que... Vous êtes folle, Irène. Votre vie est faite. La mienne le sera demain.
Mais oui, tu vas te marier. Mais tu n'es pas encore mariée. Tu es libre. Et moi aussi, je peux être libre. Et tout de suite, si je le veux, je serai libre.
Qu'est-ce que c'est?
Potugin.
Bonjour.
Excusez-moi, Grigor Mikhailovitch. Je veux rappeler à Irène Pavlovna que le général l'attend à 4 heures au pavillon d'été.
Oui, c'est bien. Je descends. Attendez-moi dans le hall. Grigor, demain je serai seule toute la journée. Mon mari chasse en forêt noire. Si avant de nous séparer pour toujours, tu ne viens pas au moins me dire adieu en ami, en camarade...
Non.
Tu te seras vengé de moi de la façon la plus vilaine, la plus lâche, la plus... Au revoir.
Qu'est-ce que c'est?
C'est moi, Potugin. Un mot. Un mot seulement, Grigor Mikhailovitch. Rappelez-vous que votre fiancée et sa tante arrivent ce soir par le train de Dresde, et dans 2 heures exactement. C'est vous qui hier me l'avez dit. Je ne l'ai pas oublié, parce que je suis votre ami. Bonsoir.
Du retard.
Quelques minutes seulement. Tenez, il entre en gare. Le voici.
Grigor! Grigor!
Ah!
Grigor!
Ah, chère Tatiana! Vous voilà! Passez-moi les bagages par la portière.
Voilà!
Là!
Voilà!
Là! Avez-vous fait bon voyage? Porteur, porteur!
Oh, merveilleux! Oh, je suis si contente!
Bienvenue à vous, chère madame Chestov. Pas trop fatiguée?
Pas du tout. Tatiana, tu as le parapluie?
Oui, oui.
Oh, comme je me languissais de vous, Grigor. La pauvre petite poulette, on perdait l'appétit.
Nous descendons dans le même hôtel que vous, n'est-ce pas?
Non, parce que...
Pourquoi?
Pas de chambre disponible au parc hôtel où je loge. J'ai retenu pour vous un appartement splendide au grand hôtel. C'est tout à côté.
Oh, que c'est ennuyeux. Mais nous prendrons nos repas ensemble, au moins. Vous ne nous quitterez pas, n'est-ce pas, Grigor?
Bien sûr, bien sûr. Cocher? Cochez E au Grand Hôtel. Prenez les bagages. Voilà. Là, montez, mesdames.
Merci.
Merci, madame.
Là, ça va vous donner l'occasion de faire un tour de ville en voiture. Et de passer devant le Grand Casino.
Yeah, hey.
Oh, que c'est joli! Regarde, tante.
Et tout ce monde! Quelle élégance!
Ah, c'est la grande saison. Vous voyez le casino?
Oui.
Ici, le parc. Oh. Et l'allée des promenades. Oh. Voulez-vous faire quelques pas à pied?
Bonne idée pour nous dégourdir les jambes. Bravo.
Cocher, arrêtez, cocher. Et suivez-nous au pas.
Ah, qu'il fait bon ici, Grégoire chéri. Et quel air délicieux. Comme tout est clair et gai. Vous allez souvent au casino?
Quelquefois.
Vous nous émènerez, n'est-ce pas?
Bien sûr, Tatiane.
Grégoire, voyez à droite ce monsieur et cette dame qui s'arrêtent et vous regardent.
Oui.
Mais vous les saluez? Vous les connaissez donc?
Oui, oui.
Quelle est cette dame?
Madame Ratmirov.
Russe?
Oui.
Comme elle est belle.
As-tu remarqué sa toilette? On pourrait nourrir 10 familles toute une année avec l'argent qu'on lui coûtait ses dentelles.
C'est son mari qui est avec elle?
Oui. Le général Ratmirov est un des aides de camp du tsar.
Ah. Quelle étrange expression aux yeux de cette femme. Tu as vu, tante?
Oui.
Et elle m'a dévisagée. Oh, d'un regard perçant. Jamais je n'ai vu des yeux pareils. Si beau, mais si dur.
Tatiana, vois donc ces crinolines. On doit trouver ici la dernière mode de Paris.
Mais dites-moi, Grégoire, vous la connaissiez, cette madame...
Ratmirov, oui.
C'est ici que vous avez fait sa connaissance?
Non, c'est la fille du prince Sozinin. Je l'ai rencontrée autrefois, à Moscou.
Grégoire.
Oui?
Vous avez l'air triste tout à coup. Et je ne vous trouve pas bonne mine. Vous dormez bien, au moins?
Très bien.
Et vous m'aimez toujours?
Mais oui, Tatiana.
À l'hôtel de l'Europe, l'appartement des Ratmirov.
Mais ne vous arrêtez pas, Irène. Continuez. Vous jouez à ravir.
Cela vous rappelle Moscou, n'est-ce pas?
Eh oui.
Je vous remercie, Grégoire, d'être venu me faire vos adieux. C'est votre fiancée, cette charmante jeune fille avec qui je vous ai rencontré hier?
Oui.
Elle est très jolie, au trait. Et vous avez raison de l'épouser, puisque vous l'aimez. Vous l'aimez, n'est-ce pas?
Mais évidemment, je... Oui. Ah, est-ce que je sais si je l'aime? Depuis que je vous ai revu, ma volonté est à la dérive. Je ne sais plus où j'en suis, ni ce que je fais.
Et vous pensez que c'est ma faute? Sans doute, Grégoire. Et en tout cas, j'ai tenu à vous voir pour vous dire que tout ce qui s'est passé hier entre nous ne doit pas changer vos résolutions. Hier, je n'ai fait que payer ma dette. Mais je ne voulais ni ne veux vous délier de votre promesse envers cette jeune fille. Voilà ce que je voulais vous dire.
Et moi, je vais vous dire ce que je compte faire. Je pars, vous entendez? Je quitte Baden. Je ne peux pas vivre ici entre elle qui est ma fiancée, et vous. Vous que j'ai peur d'aimer encore, toujours.
Vous êtes sûr, Grégor, de ce que vous dites?
Ah, je ne suis sûr que d'une chose, c'est que je dois partir. Je trouverai un prétexte quelconque pour m'excuser auprès de Tatiana Chestov et de sa tante. Et puis, m'en aller, me sauver, il le faut.
Je réfléchis à ce que vous dites. Oui, ça vaudrait peut-être mieux, en effet, pour vous, comme pour moi.
Oh, vous!
Je t'aime, Grégor. Mais moi aussi, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer.
Irène.
Oh, Grégor. Je sens que je vais pleurer. Oh, c'est une catastrophe. Vous quitteriez Baden? Vous partiriez?
Oui. Cette lettre de mon père, elle m'inquiète.
Serait-il souffrant? Malade? Votre mère, peut-être?
Mais je ne sais pas.
Grégor, baissons la voix. Je ne veux pas que ma tante le sache. Est-ce bien vrai la raison de votre départ? Cette lettre et ces nouvelles de chez vous.
Et qu'est-ce que vous voulez dire?
Oh, depuis notre arrivée, je sens que vous n'êtes plus le même avec moi. Vous êtes préoccupé. Ce n'est pas à cause d'une femme, n'est-ce pas? D'une autre femme que vous aimeriez?
Et quelle idée?
Oh, il faudrait me le dire, Grégor. Je n'ai pas peur de la vérité. Si j'apprenais que vous m'avez menti ou caché quoi que ce soit, oh, ma déception serait si grande. J'en mourrais, Grégor.
Eh bien, Tanoushka, quoi? Qu'est-ce que tu dis à Grégor? C'est donc si grave que je ne puisse l'entendre.
Non, je disais à Grégor que je n'aime pas cette façon qu'ont les femmes de se teindre les cheveux.
Oh, certes, chez nous, à Dresde, on n'est pas encore descendu à pareil scandale. Dresde est plus loin de Paris.
Bonjour, cher Grégor Mikhailovitch. Je ne vous dérange pas?
Pas du tout.
Mesdames, je vous présente M. Ivanovitch Potugin, conseiller d'État.
Ou en retraite.
Madame Kapitolin Chestov, Mademoiselle Tatiana Chestov.
Ah, votre fiancée, n'est-ce pas? Mes compliments aux fiancés. Madame, je mets à vos pieds mes hommages.
Enchanté, monsieur. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez une chaise libre, là.
Comme je vous suis reconnaissant d'avoir pitié de ma solitude.
Vous êtes seul à Baden?
Seul, non. Quoique célibataire, je vis avec une petite fille.
Oh!
Oh, madame, la petite fille a 5 ans. Une orpheline que j'ai dû recueillir, adopter.
Tiens, j'ignorais cela.
On ignore tant de choses.
C'est très généreux de votre part, monsieur, ce que vous faites là. Très beau.
Ouf, vous savez, la petite a sa nurse. Mais c'est moi qui... Enfin, je l'élève, comme si elle était ma fille.
Vous m'aviez caché cela, Potugin.
Eh oui. Vous plaisez-vous à Baden, madame? Et vous, mademoiselle?
Beaucoup. Le pavillon, les promenades, les hôtels, tout est très aristocratique. Autant que je peux en juger.
Très, très. Vous pourriez aller jusqu'au Conversationhaus, où joue l'orchestre militaire prussien.
Avec plaisir. Tu viens, Tatiana?
Oui, ma femme.
Passez devant avec Grégor. Allez, en route, les jeunes gens.
Voulez-vous me permettre, madame, de vous tenir compagnie?
Avec plaisir.
Et de vous offrir mon bras?
Comme vous êtes aimable, monsieur. Merci infiniment, cher monsieur, de m'avoir ramené à mon hôtel. Mais je me demande où sont passés nos jeunes gens.
Ils nous ont perdus dans la foule. Ah non, les voici. Ils nous attendent à l'entrée de l'hôtel.
Eh bien, vous aviez disparu?
Nous vous avons cherché, ma tante.
Encore merci, cher monsieur. Et à bientôt, j'espère.
Merci.
Vous venez, Grégor?
Le temps d'acheter des cigarettes. Je vous rejoins.
Dites-moi, Potugin. J'espère que vous n'avez rien dit à Madame Chestov de mes relations avec Madame Ratmirov.
Je pourrais m'offenser d'une telle question. Sachez, Grigor Mikhailovitch, sachez d'abord que je suis un honnête homme. Ensuite, que je suis votre ami. Je vous le prouverai avant qu'il soit longtemps. Bonsoir.
Fais voir tes yeux, Tatiana. On dirait que tu as pleuré.
Mais non, ma tante. Pourquoi pleurerais-je?
Je te le demande. Grégor t'aurait-il dit quelque chose de désagréable?
Pas du tout. Il ne m'a pas dit grand-chose, d'ailleurs. Il avait l'air soucieux.
Il va peut-être nous quitter. C'est pour cela que tu pleures.
Oh, mais encore une fois, je ne pleure pas. Je suis un peu enrhumée, voilà tout.
Enfin, Grégor, as-tu, oui ou non, rompu avec ta fiancée? Lui as-tu dit que tu aimais une autre femme et que cette femme est ta maîtresse?
Je ne lui ai rien dit de précis encore. Mais elle se doute de ce qui est.
Tu ne m'as pas nommé, au moins?
Bien sûr que non. Je lui ai dit que j'étais obligé de quitter Baden, mais les raisons que je lui ai données de ce départ ne l'ont pas convaincue. Demain, je lui dirai la vérité.
Tu lui diras que tu ne l'aimes plus?
Je le lui dirai. Et c'est elle alors qui partira. Mais il ne s'agit pas d'elle pour l'instant. Il s'agit de nous. Je te rappelle ce que tu m'as promis hier.
Ingrat, tu n'es pas encore satisfait.
Oui, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ni toi ni moi ne pouvons vivre dans le mensonge. Je n'accepte pas de te partager avec un autre, et cet autre fut-il ton mari. J'ai renoncé, moi, à mon mariage et j'agis contre la volonté de mes parents. J'espère que tu tiendras ta promesse et que tu vas unir ton sort au mien.
Tu veux que je m'enfuie avec toi? Je suis prête. Mais as-tu songé aux obstacles? As-tu avisé aux moyens?
Je n'ai encore rien prévu, mais d'ici un mois...
Mais pourquoi un mois? Partons tout de suite. Pour l'Italie, si tu veux. Tu demandes des délais, mais pourquoi? Pour régler en douceur ta rupture avec ta fiancée. Mais je suis ta maîtresse, moi. Et si je me décide, si je m'enfuis, ce sera avec un homme volontaire et fort, et non pour ménager le cœur d'une petite demoiselle qui n'a dans ses veines au lieu de sang que du lait coupé. Oh, pfff! Elle a l'air d'un petit chat.
Écoute, je n'explique pas ta nervosité, ta colère.
Pardonne-moi, Grégor. Tu vois comme je suis mauvaise, hein? Jalouse, méchante. Mon Dieu, quelle heure est-il? Et mon mari qui va arriver, je n'ai pas changé de robe. Oh, attention, c'est lui. Raconte-moi quelque chose, n'importe quoi, parle-moi. N'irez-vous pas demain au théâtre? On donne le verre d'eau. Je dois t'avouer et t'avertir que tout mon argent est chez lui.
Écoutez, chère petite Tania, chère Tanyushka, je vous ai dit hier, je vous ai dit...
Oh, Grigor Mikhailovitch, ne me dites plus rien. Je viendrai à votre aide. Vous avez cessé de m'aimer et vous ne savez pas comment me le dire.
Je n'ai pas cessé d'aimer.
Oh, mais si, mais si.
Mais non, je t'aime, Tatiana, je t'aime, mais... Un événement inattendu a bouleversé ma vie. Je suis un homme perdu. Tout est détruit, déchiré. Et je ne sais ce qui m'attend demain. J'ai résisté tant que j'ai pu, j'ai... Mais...
N'insistez pas, Grégor, j'ai compris. Vous aimez une autre femme. Et je devine qui est cette femme. Ce qui arrive n'est peut-être pas votre faute. On n'y peut rien changer. Et je ne vous en veux pas. Il ne me reste qu'à vous rendre votre parole et ma bague de fiançailles. La voici.
Qu'est-ce que vous devez penser de moi, Tatiana?
Je ne vous accuse ni ne vous blâme, Grégor. La plus amère vérité est préférable à ce qui se passait entre nous depuis quelques jours. Et maintenant, je vous prie de me laisser, Grégor Mikhailovitch. Ma tante que j'ai peu à peu préparée à ce dénouement a beaucoup de chagrin. Moi aussi. Mais si Dieu m'aide, cela passera. Nous avons résolu toutes les deux de quitter Bad au plus tôt.
Tatiana.
Nous nous reverrons peut-être avant de partir. Pour l'instant, n'en parlons plus. Tout est dit.
Qu'est-ce que c'est ?
Une visite. Monsieur Potugin vous demande.
Ah bon ? Qu'il entre ?
Bonsoir, Grégoire Mikhailovitch.
Bonsoir.
Excusez-moi de vous déranger, mais je vous apporte une nouvelle qui, je l'espère, vous touchera. Madame Chestov et sa nièce Tatiana quittent Baden-Baden ce soir par le train à destination de Dresde.
Comment le savez-vous ?
C'est Madame Chestov elle-même qui m'avait prié d'aller lui retenir ses places. Je ne pouvais refuser de lui rendre ce service.
En somme, vous êtes l'ami de tout le monde, Potugin.
Madame Chestov est une vieille dame spirituelle, charmante et bien sympathique. Quant à Mademoiselle Tatiana, votre ex-fiancée, c'est bien l'être le plus adorable que j'ai jamais connu. Je serais fier d'être leur ami, mais je suis avant tout le vôtre.
Je ne vous ai pas demandé de l'être. Et puis de quel droit vous mêlez-vous de mes affaires, de ma vie ?
A-t-on ou non le droit de tendre la main à celui qui se noie ? Surtout si celui qui se noie est votre plus proche ami.
Moi, je suis votre ami le plus proche, moi ?
Oui. Et savez-vous pourquoi ? Parce que vous êtes aujourd'hui dans la situation désespérée, affreuse, où s'est trouvé il y a 5 ans un pauvre homme, semblable à vous. Un homme dont la vie... le bonheur, ont été irrémédiablement brisés, détruits par le même sentiment et pour la même femme. Et cet homme, c'était moi, Grégoire Mikhailovitch.
Qu'est-ce que vous dites ?
Oui. Moi aussi, j'ai aimé. J'aime encore, pour mon malheur, Irène Pavlovna. Après avoir été un jouet entre ses mains, je ne suis plus qu'un figurant de sa suite, un complice. Mais un complice accommodant, si utile, celui qui se charge de toutes les commissions, même les plus humiliantes, l'homme de tous les dévouements.
Ainsi, vous avez été son amant.
Et oui, et puis après, certainement pas le premier. Je viens d'adopter l'enfant que j'élève, cette petite fille, que j'aime maintenant comme si elle était ma fille. Il y a 5 ans, j'étais un des admirateurs d'Irène Pavlovna. Et elle n'habitait déjà plus chez le comte Eisenbach. Oh non, non. Et un jour, Irène vint me supplier de prendre chez moi un bébé qui venait de naître. C'était, me disait-elle, l'enfant d'une de ses amies, qui serait déshonorée si l'on connaissait la vérité sur cette naissance. « Prouvez-moi votre amour, m'a-t-elle dit en pleurant, je vous prouverai ma gratitude. » Elle s'est jetée à mon cou, elle s'est offerte, elle s'est donnée, et depuis ce temps, je vis dans son sillage. Serais-je venu sans elle ici, dans cet insupportable Baden-Baden ?
Et naturellement, vous êtes jaloux de moi ?
Non, monsieur, non. Je suis un vieil original, ridicule, inoffensif. Celui qui n'a plus une ombre d'espoir n'est pas jaloux. Je plains cette jolie, cette pauvre jeune fille, votre fiancée. Et je vous plains aussi. Voilà, Grégoire Mikhailovitch Litvinov. Je n'ai pu me maîtriser. C'est mon excuse. Et maintenant, adieu. Soyez sans inquiétude. Tout cela demeurera entre nous.
Entrez.
On apporte cette lettre pour M. Grégor Mikhailovitch Jedvinov.
Merci. Oh! Oh! Oh, décidément, elle est gangrénée jusqu'au cœur. Monsieur Potoukine, vous savez, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans cette lettre? Elle l'a écrite devant vous. Peut-être même la lui avez-vous dictée.
Sur l'honneur, monsieur, non. Je vous jure que non, je l'ignore.
Si, vous le saviez, et c'est pour cela que vous êtes venu me voir.
J'ai dit non, non, monsieur. Et vous devez me croire.
Oh, cette lettre, quel cynisme, quelle saleté. Non, mais écoutez cela. Cher Grégor, je ne puis m'enfuir avec toi. Je n'en ai pas la force. Je sais combien je suis lâche, je me méprise, je m'accable de reproches. Mais je ne puis me changer, je suis à toi pour toujours. Mais fuir, tout abandonner, ma situation et le monde où je vis, je ne peux pas. Nous retournons bientôt à Pétersbourg. Viens à Pétersbourg avec nous, nous t'y trouverons de l'occupation. Tu vivras près de moi, nous nous verrons souvent. Aime-moi comme je suis, je t'aime et je t'attends. Voilà. Eh bien, qu'elle aille au diable. Je la méprise et je la hais.
J'ignorais tout de ce qui était convenu entre vous et je ne pouvais deviner ce qu'elle allait vous écrire, mais tout de même, Dieu fait bien les choses.
Viens avec nous à Pétersbourg. Nous t'y trouverons là de l'occupation, nous, mais qui est-ce, nous? Je voudrais bien le savoir.
Moi, je le sais. Quelqu'un de beaucoup plus puissant que son mari. Oh, son mari... Pfft.
Eh bien, non. Non, non. Je préférerais crever.
Ami Grégor, le train pour Dresde que prennent Madame Chestov et votre fiancé part dans une demi-heure exactement. Bouclez vos valises et courez à la gare prendre ce train. Vous rejoindrez ces dames dans la voiture numéro 2.
Qu'est-ce que vous me chantez? Prendre le train à cette heure-ci? Mais je ne trouverai pas une place.
Si, monsieur, si. Votre place est retenue. Voici votre billet. À tout hasard et sans rien dire à ces dames, j'avais pris un troisième billet et réservé votre place. La voici.
Oh, vous alors? Vous? Tenez, payez-vous. Oh, mais je ne sais, je ne sais maintenant si je dois vous étrangler ou vous remercier.
Vous me remercierez plus tard. Dépêchez-vous.
Grégor, mon petit Grisha, quelle joie vous nous faites.
Oh, Grégor, chéri.
Demande pardon, Tatiana.
Mais bien sûr, elle vous pardonne. Et maintenant, mon Dieu, laissez-nous dormir. Je suis morte. Trois nuits que la pauvrette n'a pas fermé l'œil. Oh, moi non plus, d'ailleurs.
Oh, mais non. Oh, non. Je ne veux pas dormir. Je veux être avec toi, Grégor. La tête sur ton épaule. Tu veux bien?
Tatiana...
Oh. Oh, que j'ai été malheureuse.
N'y pense plus. C'est fini, passé, envolé, comme la fumée du train. Regarde, regarde comme elle passe. Fumée, tout n'est que fumée. Tout paraît changer, une image remplace l'autre, mais tout reste la même chose. Fumée. Tout se précipite, se dépêche d'aller on ne sait où. Et tout se dissipe sans laisser de traces. Fumée. Ah, moi aussi, Tatiana, j'étais malheureux. Aussi malheureux que tu pouvais l'être. Et je vais tout te dire. Te raconter, Tatiana. Hein? Oh! Pauvre chérie, elle s'est endormie.
Art et travail d'André Delferrière vient de vous présenter Fumée. Film radiophonique de Charles Méret, d'après le roman d'Ivan Turgenev. Mise en scène radiophonique de Ange Gilles. C'est une production Anita Soler, Delferrière.